Delatte. Christophe Delatte.
Voici l'histoire parfaitement ordinaire et donc parfaitement exemplaire d'un migrant, un jeune Afghan qui s'appelle Safi Mohammad et qui raconte dans un livre les 70 jours du périple de 10 000 kilomètres qui l'a amené de son village pas loin de Kaboul jusqu'à Marseille en France. Ce livre s'appelle « Exil ordinaire d'un jeune Afghan » et Safi l'a écrit avec Giovanni Privitera. Il paraît aux éditions Henri Dougier. Et sa fille sera là, bien sûr, pour débriefer son histoire tout à l'heure. Je l'ai écrite avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je m'appelle Safi Mohammad. Je suis né en 1991 à Mana, un village de 1000 habitants à 100 km au nord de Kaboul. Je suis Pashtoun. C'est l'ethnie majoritaire en Afghanistan. Mes parents sont paysans, on a une petite parcelle, on cultive principalement du blé et de l'orge. Et on a aussi quelques moutons dans le troupeau de la communauté villageoise. J'ai 3 ans quand en octobre 1994, les talibans commencent à mettre la main sur notre pays. Et toute mon enfance est marquée par eux. Par leurs interdictions, la télé, la musique, la danse, le sport et l'école. L'école est interdite. Il n'y a que l'école coranique. Les instituteurs d'avant sont renvoyés chez eux. Et moi, je suis privé d'école jusqu'à mes 11 ans. Dans mon petit village, les talibans nous rendent visite une ou deux fois par mois. Ils arrivent à 2 ou 3, ils fouillent les maisons, ils cherchent des armes. Et s'ils en trouvent, ils les confisquent. Et ils ont mon père à l'œil. Il était membre du parti du commandant Massoud, leur ennemi. Et puis, il y a les attentats du 11 septembre et l'arrivée des Américains. Les talibans passent à la clandestinité. J'ai 11 ans et je peux donc enfin aller à l'école. Le matin, hein, l'après-midi, j'aide mes parents dans les champs. J'apprends à lire, à écrire, à compter et aussi quelques rudiments de l'histoire et de la culture afghane. Je reste à l'école jusqu'à mes 18 ans. Et puis, en 2012, à l'âge de 20 ans, je passe un entretien pour entrer dans la police, pour sécuriser mon village. Les talibans ne sont plus au pouvoir, mais ils ne sont pas loin. Et donc, à partir de janvier 2013, je commence à travailler dans la police locale. Et comme on coopère avec l'armée américaine, pour les talibans, je deviens un infidèle au service de l'ennemi. Et je participe à plusieurs opérations avec eux. 4 opérations au total. Quand les Américains et les autres armées étrangères quittent l'Afghanistan en 2014, les talibans reprennent du poil de la bête. Et d'autres groupes terroristes, notamment Daesh, font surface. Et là, je reçois une première lettre des talibans. Vous devez quitter votre travail dans la police et rejoindre les rangs des talibans, sous peine de représailles. C'est un ultimatum, mais je l'ignore. Quelques semaines plus tard, une nuit vers 2 heures du matin, une voiture s'approche de notre maison, tout feu éteint. Et je me réveille en sursaut. J'entends ma mère pousser un cri sourd. Et je comprends tout de suite, les talibans viennent de tuer mon père. Et moi, pendant des semaines, je me sens coupable de n'avoir rien fait. Mais je dormais. La vérité, c'est que je dormais. Je n'ai rien pu faire. Quelques semaines plus tard, je reçois une deuxième lettre. Vous n'avez pas pris le premier avertissement au sérieux. Nous ne plaisantons pas. Et là, ma mère est inquiète pour moi. Tu dois quitter le village. T'as pas d'autre solution, sa fille. Tu dois aller te réfugier à l'étranger. Les talibans ne sont pas humains. C'est le diable qui les guide. partir? Abandonner ma famille? Enfin, je suis l'aîné. L'aîné d'une fratrie de 6. Mon père vient de mourir. Mon rôle est de prendre le relais. Mais ma mère insiste. Et petit à petit, ça fait son chemin dans ma tête. Même si la vérité, c'est qu'en Afghanistan, tout le monde y pense. Émigrer. Mais quand ça se concrétise, quand ça devient réel, c'est pas évident. Je commence par aller prendre conseil auprès de mes amis. Va en Europe, sa fille. Bien sûr, l'Iran et la Turquie, c'est pas loin, mais quitte à partir, pars en Europe. T'auras plus d'opportunités là-bas. On en rêve tous de l'Europe. Va en Europe. Alors un matin, je saute le pas. Dans un état second, je fais mon sac. Je dis au revoir à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à mes amis. Et je monte dans un minibus pour Kaboul. Avec Ahmad, un très bon ami qui connaît un passeur là-bas. 4 heures plus tard, la camionnette nous dépose à Kaboul. Le passeur travaille dans un bureau de change, on y va tout droit. Il s'appelle Kaher. Bonjour Kaher. Bon voilà, je t'explique la situation. Les talibans sont après mon ami qui est là. Il doit partir en Europe, et vite. Et il veut voyager dans les meilleures conditions. Alors quel est ton prix, hein? Et quel trajet tu proposes? Et surtout, quand est-ce qu'il peut partir? C'est-à-dire que je suis plus cher que d'autres, hein. Mais avec moi, tu verras, hein. Ça sera une promenade de santé. Je connais beaucoup de monde en Iran, en Turquie, en Bulgarie. Alors le prix, c'est 9 500 $. C'est-à-dire que j'ai un cousin qui est déjà parti là-bas, il m'a dit que le voyage était infernal et qu'ils se sont fait arrêter et qu'ils ont été renvoyés en Afghanistan. Oh ben c'est qu'ils ont pris un passeur de pacotille. Ma parole, mon garçon, est une parole de pachtoune. Fais-moi confiance. Je suis fier, je sais. Mais tu payes la qualité. Et moi, je le crois. Mais il faut négocier parce que 9 500 $, moi qui gagne l'équivalent de 170 $ par mois. Tu sais, il y a des passeurs qui demandent 6 000 $, hein. Mais à ce prix-là, t'es pas sûr d'arriver. Ils vont te faire passer par la Grèce. Et tu devras traverser la mer. Et comme l'Afghanistan est un pays sans mer, ben, les Afghans savent pas nager. Bon, allez. Puisqu'on se connaît, je veux bien te faire un rabais. 9 000 $. Je suis pas riche. Mais si t'es d'accord pour 7 500 $, je paierai assez rapidement. Ah, mon garçon, je descendrai pas en dessous de 8 100 $. La moitié en cash, l'autre moitié quand t'arrives en Europe. Tu l'enverras par ta famille. Sachant évidemment que si la famille ne paye pas, elle sera persécutée, traquée, voire tuée. On finit par se mettre d'accord pour 8 000 $. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver cet argent. Il me faut 4 000 $ pour partir. J'ai un peu d'argent de côté que j'avais épargné en vue d'un éventuel mariage. Le reste, je dois l'emprunter. Ça me prend 2 mois. Un ancien voisin de mes parents, qui a ouvert une grande boutique de tissus à Kaboul, il y a 1 an et demi, me prête une bonne partie de la somme. Ma mère me prête un peu de l'argent que mon père nous a laissé. Et puis, on vend quelques-unes de nos bêtes. Et puis, des amis, une quinzaine de personnes au total, me prêtent un peu d'argent. Et quand j'ai les 4 000 $, je vais tout de suite payer le passeur. Et il m'appelle le soir même.
Sa fille ? Bon, vous partez demain. Vous serez 4. Note bien le numéro de téléphone des 3 autres, hein. Appelle-les, ils te donneront des informations.
On se retrouve 2 jours plus tard à la gare routière de Kaboul. Dans mon sac à dos, j'ai 3 pantalons, une veste, quelques vêtements, une paire de chaussures et un peu de nourriture. Nous montons dans un bus direction la province de Nimroz. À Nimroz, On attend 2 jours dans une auberge. Et puis un soir, on est près de 50. On monte dans 3 pick-up, entassés comme des chiens. Et on roule 2 heures. Tout le monde y descend ! Et on continue à pied dans la nuit. Et à l'aube, j'aperçois la barrière qui marque la frontière avec l'Iran. Et là, les 3 passeurs qui nous accompagnent déterrent des pinces qu'ils avaient enterrées là. Et ils se mettent à faire un trou dans le grillage. Et on passe, beaucoup plus facilement que je ne l'imaginais. Nos passeurs sont repartis. Ils nous ont confié à des Iraniens, beaucoup plus autoritaires.
Quand on vous donne des ordres, il faut les exécuter, d'accord ? Si la police vous arrête, vous vous ferez tabasser et ramener chez vous. Dans ce cas-là, on ne pourra plus rien faire.
Et il faut encore marcher. Et marcher. Je commence à avoir mal aux pieds. Et puis 4 pick-up arrivent. On monte à 12 par voiture. Et dans un nuage de sable, on se met à rouler à 100 km/h jusqu'à un petit village et une grande maison abandonnée. Et là, on attend, affamé, apeuré. Un pick-up, et puis des heures et des heures de marche, et puis des taxis de vieux tacos, et puis un bus. Et nous voilà à Téhéran. Ça fait 10 jours que j'ai quitté mon village. Il faut absolument que je parle à ma mère, que je la rassure. Alors j'appelle mon ami Ahmad, qui court chez ma mère, pour lui donner son portable.
Maman ? Maman, c'est moi, c'est sa fille !
On n'a pas parlé longtemps, mais ça nous a rassurés, réciproquement. Il faut foncer, sa fille. Il faut foncer, sinon tu n'y arriveras pas. Il s'agit maintenant de passer d'Iran en Turquie. À la frontière, un pick-up arrive avec déjà 5 personnes à l'arrière. Et nous, on est 18. Alors je me précipite, à un moment, il n'y aura plus de place.
Serrez-vous ! Allez, serrez-vous !
Et là, le type se met à taper dans le tas avec un balai. Et on roule. Et ensuite, on marche. Et au lever du jour, on arrive devant le grillage qui sépare l'Iran de la Turquie. Mais les passeurs, qui sont des Kurdes, ne le sentent pas. Alors ils décident de changer de point de passage. Et c'est reparti. À un moment, je trébuche, je me penche. Des ossements. Je me dis, ce sont des ossements d'animaux, mais non ! Ce sont des squelettes d'hommes. Des qui, comme nous, ont tenté l'aventure et qui n'ont pas eu de chance. C'est effrayant. Vers midi, un des passeurs nous regroupe.
Bon, 3 voitures vont arriver. Vous devrez monter dedans en 30 secondes. Hein. Ils vous attendront pas, je vous préviens. Ils vont rouler 10 minutes et ils vont vous déposer devant une butte. Là, vous devrez courir le plus vite possible pour franchir cette butte. De l'autre côté, vous serez en Turquie.
J'ai donné tout ce que j'avais. Je suis arrivé le premier de l'autre côté. Je me suis couché. Je suis en Turquie. Je m'approche du but. En Turquie, on est pris en charge par d'autres passeurs, encore des Kurdes. Ils nous mettent dans un bus pour Istanbul. Et 4 jours après, on met le cap sur la Bulgarie.
Prenez tous des sacs poubelles, hein ? Il pleut beaucoup en Bulgarie.
Un camion nous conduit directement à quelques kilomètres de la frontière bulgare. Et après, à pied. Et là, d'un coup, sorti de je ne sais où, arrivent 2 voitures de la police bulgare. 10 policiers, dont 2 qui pointent leurs armes.
Les mains en l'air ! Qui sont les passeurs ?
Les passeurs ont jeté leur téléphone. C'est le seul objet qui pourrait les trahir. Ils nous fouillent. Ils nous prennent tout, tout. Une camionnette vient nous chercher et elle nous reconduit de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Turquie. où je me retrouve sans sac, sans téléphone, sans argent et sans ceinture. Il m'a fallu 3 tentatives pour arriver à passer en Bulgarie, c'est-à-dire en Europe. Mais ça y est, je suis à Sofia, la capitale. Ça fait 35 jours que je suis sur la route. À Sofia, je suis accueilli dans une maison par des Bulgares, un couple avec 3 enfants qui arrondissent les fins de mois. Interdiction de sortir. Et oui, on est en Europe. Si je me fais arrêter, on va prendre mes empreintes digitales. Et je devrais rester ici, en Bulgarie. C'est comme ça que ça marche. Le règlement de Dublin, ça s'appelle. L'étape suivante, c'est la Serbie. Et en Serbie, je me fais passer par la police. Et ils prennent mes empreintes. Mais c'est sans conséquence, puisque la Serbie n'est pas dans l'Union européenne. Il nous laisse le choix. Vous avez la possibilité de demander l'asile ici, en Serbie. Dans le cas contraire, vous avez 2 semaines pour quitter le territoire. Et il nous laisse repartir. Et là, je vais tout droit à la gare routière dans l'idée de prendre le car pour Belgrade. Et à la gare routière, au guichet, je tombe sur une jolie blonde, la 20aine.
You want a cigarette?
Je ne fume pas, c'est dommage. Et là, elle m'explique qu'elle a le wifi dans son bureau, que je peux me connecter. Je vais appeler ma mère. Alors elle me fait entrer dans son bureau, et là, il y a un lavabo et des toilettes.
Allez-y si vous voulez.
Quand je sors, elle m'a fait du café. J'en ai jamais bu du café, on ne boit que du thé chez nous. Cette rencontre, c'est un souvenir inoubliable. Dans mon pays, on parle pas à une jeune fille aussi facilement. J'ai pu parler avec ma mère par Facebook, en vidéo.
Tu vas bien, sa fille? T'es pas malade? Hein? T'es pas blessée? Tu manges bien?
Tout va bien, maman, tout va bien. J'ai passé le plus dur, tu sais, je suis en Europe. Ici, tout sera plus simple. Hein. Au 55e jour de mon périple, je franchis la frontière avec l'Autriche. Et me voilà à Vienne. Et j'ai faim. Je cherche un endroit pour manger. Et là, arrive une voiture de police. Ils nous demandent notre nom. Je pourrais mentir, hein, mais je donne le vrai. Parce que je suis résigné. Je voulais aller en Europe, j'y suis, pourquoi pas l'Autriche? Je suis dans un pays riche, un pays moderne, pourquoi ne pas rester là? Et je me retrouve en prison. Et la condition pour sortir, c'est de demander l'asile. Nom, prénom, âge, pays d'origine, ils prennent mes empreintes, et au bout de 6 jours... Ils nous emmènent tous dans un camp. Et là, ils me donnent une carte avec un numéro à 10 chiffres et mon nom. Je suis officiellement résident du Refugee Camp de Vienne. Ça n'est pas vraiment comme ça que j'imaginais mon arrivée en Europe. Mais je suis libre. Dans ce camp, on est plus de 5000 réfugiés pour 4000 places. Pour dormir, pour manger, pour se doucher, c'est compliqué. Faut batailler. Mais au moins, ça occupe nos journées. Le 2e jour, je veux sortir, aller voir le centre-ville de Vienne, commencer à découvrir ce pays où je vais vivre. Mais je bute sur des policiers. On ne peut pas sortir comme ça. Il faut une permission. Je suis coincé. Je suis coincé dans ce camp gris et bétonné. Le 4e jour, après une visite médicale, je peux enfin sortir. Pour aller dans le centre de Vienne, il y en a pour 2 heures de marche. Alors je me mets en marche, et plus j'avance, plus je me dis. Je parle pas allemand, je connais pas du tout les lieux, toutes les routes se ressemblent, je vais me perdre. Et là, je sens monter comme une angoisse. Et je fais demi-tour. Et je rentre au camp. Je ne vais pas rester ici. Je vais reprendre la route. L'Europe dont je rêvais, dans mon village. C'était pas l'Autriche. C'est l'Italie, c'est l'Angleterre, c'est la France. Alors le lendemain, j'achète un billet de train pour Milan. Ça fait 67 jours que je suis parti. Je dors tout le voyage. Et j'arrive à Milan à 9h du matin. Waouh ! Que c'est beau ! La gare, la cathédrale et la langue. La langue italienne à l'oreille, c'est très joli. J'aurais bien goûté un plat italien, mais mes compagnons veulent un plat de chez nous. Alors on se rabat sur un snack pakistanais. Le patron est un pachtoun. Il est là depuis des années.
Bon, en Italie, c'est bien. Hein. T'auras facilement des papiers. Mais pour le travail, il y en a pas trop ici. Hein. Tu ferais mieux d'aller en France. Mais attention, hein. À Vintimille, passer la frontière, c'est pas facile. Hein.
Et donc je vais à la gare. Et j'achète un billet pour la frontière, pour Vintimille. Arrivé à Vintimille, j'achète immédiatement un billet pour Nice, en France. Mais la frontière est fermée. Alors je sors de la gare et je tombe sur un camp de la Croix-Rouge. Je passe la nuit à mal dormir sous la tente. Et le lendemain, je décide de tenter ma chance avec un Pakistanais rencontré dans le hall de la gare. Et lui, il a une idée.
Écoute mon idée. On va s'acheter chacun un journal. Et s'il y a un contrôle, eh ben, on fera semblant de le lire. Mais attention, hein, faudra pas qu'on se mette côte à côte. Hein.
Le train arrive, on grimpe dans un wagon, et quelques minutes plus tard, le train s'arrête, et la police française monte. Et un policier français se dirige droit vers moi.
Passeport ?
Et il me sort du train, et il me fouille, et il me renvoie en Italie. Mais j'ai servi de diversion, et mon copain a pu passer, donc c'est faisable. Je retente ma chance 3 jours plus tard, avec 4 autres Afghans. Le train s'arrête, la police monte, et 1 heure plus tard, je suis à Cannes. Je vais pour sortir de la gare, et là je bute sur un mur de policiers, et je me fais arrêter par 3 gendarmes. Et quand ils me fouillent, ils trouvent mon billet de train, Vintimille, Cannes. J'aurais dû le jeter. Du coup, il me confie à la police italienne. Les policiers italiens me font monter dans une voiture en route pour la frontière. Mais sur l'autoroute, il s'arrête à la sortie de Roquebrune-Cap-Martin.
Bon, vous n'avez qu'à descendre là. Vintimille, c'est à quelques kilomètres. Mais là, vous êtes en France, hein. Alors faites comme vous voulez, quoi.
Ça les arrange, les Italiens, qu'on ne rentre pas en Italie. Mais il fait nuit. Où aller ? J'hésite. Et finalement, moi et les autres, on retourne à Vintimille. Jamais 203. J'ai compris le système. Il suffit d'insister pour que ça marche. Alors le lendemain, avec 2 compères, je rachète un billet pour Nice. La police monte dans le train, mais cette fois-là, elle me laisse passer. Et à Nice, je sors de la gare sans problème. Mes compagnons de voyage veulent poursuivre vers Paris. Mais le billet de train pour Paris est trop cher pour moi.
Bon, écoute, Safi, si tu veux pas venir avec nous à Paris, va à Marseille. Hein, appelle ce numéro, c'est un ami d'enfance, tu lui diras que t'appelles de ma part. Tu verras, il a un appartement, il est très hospitalier. Il t'hébergera.
Marseille. Je sais pas trop où c'est. Dans ma tête, c'est plus loin que Paris. Alors je vais au guichet.
Billet pour Marseille, s'il vous plaît. Oui, ce sera 34 euros.
Mais c'est beaucoup moins cher que Paris, donc c'est moins loin. Et 2 heures de train plus tard, j'arrive à la gare Saint-Charles de Marseille. Je Je sors sur le parvis. Je me plante en haut des grands escaliers. Je regarde la ville. On est le 24 juin 2015. Ma nouvelle vie commence ici et maintenant. Cette histoire est tout droit tirée de votre livre « Safi Mohammad », coécrit avec Giovanni Privitera, « Exil ordinaire d'un jeune Afghan » aux ateliers Henri Dougier. J'ai choisi d'arrêter mon histoire là, mais évidemment, elle continue. Alors le numéro de téléphone, c'était un bon tuyau. Il vous a aidé cet homme dont on vous avait donné le numéro de téléphone ?
Oui, franchement, il m'a donné le numéro de téléphone et j'ai appelé le mec afghan qui habite à Marseille. Il me cherchait, je reste plusieurs heures à Gare Saint-Charles. Oui. Il est venu me chercher, je suis allé chez lui. Franchement, il m'a fait manger, j'ai pris douche. Je suis un peu tranquille de rester. Il m'a parlé de situation de France pour aller rester à Marseille, pour aller à Paris. Franchement, je suis content qu'il m'ait...
Il vous a accueilli, ça a beaucoup compté ça. Parce que vous auriez pu tomber dans la masse et puis aller tout droit à ce camp de réfugiés où vous avez fini par aller d'ailleurs.
Ouais.
Ouais. C'était pas terrible hein, ce camp de réfugiés.
Ouais, franchement, ouais.
C'est-à-dire que, bon, vous êtes resté longtemps là-bas, combien de temps vous êtes resté dans le camp à Marseille ?
Je suis après l'appel pour les 5-15, je suis allé dans une camp, je suis resté là-bas pour un mois.
Un mois?
Un mois.
Ouais. C'est un endroit, le camp, bon, d'abord c'est des chambres communes. Ouais. Combien par chambre?
6 personnes par chambre, c'est obligé de rester jusqu'à 5 heures du soir, jusqu'à 8 heures du matin.
Enfermé.
Vous avez dû sortir toute la journée.
Mais faut rentrer à 5 heures.
Jusqu'à 5 heures, ouais.
Et puis il y a des Africains. Alors, pour un Africain, c'est une découverte. Vous n'en avez jamais vu de votre vie, des Africains. Et quand vous êtes parti d'Afghanistan, on vous a dit, oulala, fais attention aux Africains.
Oui, franchement, en Afghanistan, les gens pensent que les Africains, c'est dangereux, ils sont méchants, ils sont autre chose. Oui. Mais heureusement, quand j'ai rencontré la première fois un Africain, j'ai jamais vu cette action qu'ont fait les Afghans. J'ai vu, il est trop gentil, il est trop sympa, comme nous, il n'y a pas de différence.
Il vous ressemble, en fait.
Ouais.
Il vous ressemble. Alors ensuite, vous allez vous astreindre à apprendre très vite le français. Ça, deux fois par semaine, hein.
Exactement,
ouais. Tout de suite.
Hein. Ouais, je suis allé à la station à Marseille. Elle s'appelle la province d'Afghanistan. Je suis allé là-bas deux fois par semaine.
Oui.
J'ai appris un petit peu avec. Ils sont ramènent parfois les Français ou les Françaises pour nous aider.
Pour discuter.
Pour discuter, pour parler. Mmh. Franchement, j'ai appris un petit peu. C'est un commence de là-bas.
Ensuite, vous êtes allé à la bibliothèque.
Oui, quand je suis allé à la PADA, ces centres pour demandeurs d'asile, ils sont mes conseillers. Si vous pouvez aller à Alcazar, c'est une bibliothèque à Marseille, c'est public, ouvert pour tout le monde. Vous pouvez aller là-bas pour une heure, vous avez droit d'internet, vous pouvez lire le livre, mais malheureusement, il n'y a pas de livre afghan là-bas. Juste un livre que nous trouvons, c'est un afghan qui est fait français et d'Ari. S'il y a un livre dans toutes les bibliothèques, il y a beaucoup d'Afghans qui attendent pour lui.
D'accord.
Il reste 12 heures, 3 heures d'un coup pour juste un livre.
Et puis, vous avez fait du théâtre. Comment ça s'est passé, ça?
En fait, je suis allé dans une école, cours de français. Là-bas, c'est un jeune qui arrive pour nous montrer c'est comment le théâtre en France, c'est comment les cinémas, ça veut dire quoi. Parce qu'en Afghanistan, c'est à Kaboul, c'est 2-3 cinémas, c'est que 2-3 cinémas, tout est Afghanistan.
Oui.
Les Afghans ont peut-être, moi, allé 2 fois au cinéma dans ma vie.
Oui.
Et les Afghans, il y a beaucoup d'Afghans qui ne sont pas allés au cinéma, qui ne connaissent pas les cinémas. Ils nous expliquaient c'est comment les cinémas, etc., etc. Et après, il m'a dit, tu peux venir dans mon bureau, pour etc., etc., pour t'apprendre le caméra, des choses. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré, il y avait un ami, on continue un peu, après un peu de théâtre, j'ai joué dans un film, il s'appelle Deramanana. Deramanana, ça veut dire en afghan, ça veut dire merci beaucoup. Le nom du film, on a fait dans le quartier Belzance-Alcazar, dans le premier arrondissement de Marseille.
Ça a compté tout ça, hein?
Ouais.
Beaucoup compté. Alors, vous êtes donc, arrêté en Autriche. L'Autriche, c'est l'Union européenne, et donc le règlement de Dublin prévoit, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, le règlement prévoit que on doit s'installer comme réfugié dans le pays où on est arrêté la première fois et dans le pays dans lequel on a pris vos empreintes. Quand vous êtes arrivé à Marseille, est-ce qu'ils se sont aperçus tout de suite que vous aviez déjà fait l'objet d'empreintes en Autriche?
En fait, quand je suis arrivé à Autriche, j'ai fait asile, je suis allé à la préfecture, il m'a demandé « est-ce qu'on fait déjà asile ?» Mais moi, je lui dis non, j'ai pas fait asile.
Non.
Je lui ai pas dit ça, parce que...
Vous avez pas dit que vous aviez été arrêté en Autriche?
Je lui ai pas dit ça, parce que j'ai pensé, peut-être j'ai une chance, moi les empreintes, ils sortent pas.
Ils sortent pas, ils ont pas marché.
Ouais.
Vous êtes pas dans l'ordinateur, mais vous étiez dans l'ordinateur.
Ouais, j'ai été dans l'ordinateur à Autriche.
Ouais. Donc, à ce moment-là, comment ça se passe? Ils vous renvoient pas en Autriche tout de suite?
En fait, quand ils sont voir les empreintes d'Autriche, ils ont sorti déjà, ils m'expliquaient que vous avez obligé d'aller en Autriche, parce que quand j'arrive au premier pays d'Europe, si tu fais les empreintes ou demandes d'asile, tu es obligé de rester là-bas.
Mm-hmm.
Je lui expliquais pourquoi je vais pas aller là-bas, et pourquoi j'ai passé mon pays, pourquoi j'ai passé dans ma vie personnelle. Après 5 ou 6 mois après, le juge de préfecture de Marseille décidait qu'il doit rester à Marseille parce qu'il avait raison, parce que je suis allé prison là-bas sans puteur. Ils ont décidé heureusement que vous pouvez rester
donc
à Marseille.
Donc il y a de la souplesse dans le système.
Ouais.
Alors vous travaillez maintenant à Marseille dans un restaurant.
Ouais, je suis travaillé dans un restaurant rapide.
Mais un restaurant rapide afghan qui s'appelle.
Avant, je suis travaillé dans un restaurant rapide afghan, il s'appelle Kaboul Fast Food.
Oui.
Aujourd'hui, je travaille un autre hamburger.
D'accord, dans un hamburger, vous faites des hamburgers. Votre famille, alors vous les avez au téléphone tout le temps, vous les appelez régulièrement, est-ce qu'ils n'ont pas envie de vous rejoindre?
Oui, bien sûr, je parlais avec ma famille, maintenant, ma famille ça va bien, ils sont contents pour moi. Mais
vos frères, ils veulent pas venir?
Bien sûr, ils vont venir, mais le problème, c'est je veux jamais venir dans le chemin qui m'a passé, c'est terrible.
Ouais.
Après, c'est pas possible de venir pour apprendre un visa, c'est pas possible de venir en France.
Le passeur, vous avez fini de le payer aujourd'hui ou vous le payez toujours?
J'ai fini déjà les payer.
Ouais, tout.
Tout.
Les 4 000 dollars.
Heureusement, oui.
Il vous a fallu combien de temps pour payer cette dette que vous aviez?
12 ans, j'ai fini de les payer parce que j'ai travaillé un peu là, il y a ma famille aussi, ouvre des choses là-bas. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai fini déjà l'argent.
Bon. Dans votre tête, vous allez rester en France? Ou un jour, si c'est possible, si la situation s'est calmée, vous souhaitez rentrer en Afghanistan?
Aujourd'hui, j'ai noué les amis à Marseille ou en France. J'ai beaucoup d'amis. C'est comme ma famille.
Mm-hmm.
Là, je veux rester en France. La situation en Afghanistan, c'est très, très difficile là. Mais j'ai jamais pensé qu'il va calmer là. Parce que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de paix, s'il y a calmé, j'ai envie d'aller là-bas, voir ma famille, mes amis.
Mais vous reviendrez.
Moi, j'ai afghan. Oui, j'ai retourné.
En France.
En France.
Vous souhaitez un jour avoir la nationalité française?
J'espère un jour, ouais, je vais prendre nationalité. Si j'ai appris la nationalité, je vais trop pire que je suis un français.
Alors, Safi, évidemment, on a cette phrase qui résonne du passeur à Kaboul qui vous dit « je suis cher, ça va te coûter 9 500, alors après il descend jusqu'à 8 000, mais avec moi ce sera une promenade de santé ». Est-ce que c'était une promenade de santé?
En fait, toutes les passeurs, ils disent ça, toujours.
Oui.
Mais les passeurs, c'est un mafia.
Oui.
Toujours un mafia. Mais il y a des passeurs bien aussi dans le chemin. Par exemple, j'ai rencontré à Turquie ou en Iran. Et je suis allé chez un passeur qui m'a donné un peu manger. Il n'est pas méchant. Et parfois, il y a un passeur qui m'accompagne jusqu'à Turquie et Bulgarie. C'est les gentils aussi. Il est un migrant comme moi. Il arrive, il est passé Europe, mais il est bloqué en Turquie.
Mmh. Donc il fait passeur en attendant.
Ouais. Et un passeur, il dit pour lui que je t'ai donné un peu l'argent, plus tu peux accompagner le gens jusqu'à Bulgarie.
Mmh.
Mais il m'a dit, si je gagne un peu l'argent, pour aller en Europe, je vais quitter cette métier.
Mmh.
Parce que c'est horrible, cette métier, et il y a des passeurs bons aussi.
Alors, est-ce que c'était aussi dur que vous le pensiez ou plus dur que vous le pensiez?
Plus dur que je le pensais, parce que je suis choqué parfois dans le chemin, parce que de frontière de Turquie, Iran, j'ai eu un squelette de homework.
Oui.
Je suis vraiment, vraiment choqué. C'est pour moi, c'est un moment, c'est terrible.
Ça aurait pu être vous.
Ouais.
C'est ça qu'on se dit.
Ouais.
Ça aurait pu être moi. Est-ce que vous comprenez que la France, à la frontière, à Vintimille, elle fait tout ce qu'elle peut, elle n'est pas très efficace, vous le racontez très bien, mais tout ce qu'elle peut pour empêcher tous ces migrants d'entrer. Est-ce que vous comprenez ça?
Oui, il y a beaucoup de migrants qui venir voir vers Vintimille, parce que la zone camp de Vintimille, c'est à 5000 migrants. En 2015, que j'ai vu, il y a des femmes, il y a les enfants, il y a tout le monde envie de venir en France.
Donc vous comprenez que la France dise non, stop. Ils ont raison, les Français, ou pas?
Ils ont raison. Ils ont raison ou pas, parfois, parce que ces migrants, c'est, ils viennent de guerre et de violence, ils ne viennent pas pour autre chose. Mais il y a un gouvernement, c'est un Français, ils sont sans pays, ils sont décidés.
Mmh.
Sans pays, pour sans pays qu'ils sont décidés.
Mmh. C'est normal.
C'est normal.
Alors, il y a une petite histoire qui m'a bien plu dans cette grande histoire. C'est cette rencontre en Serbie avec cette jolie blonde, dont on sent que vous tombez un petit peu amoureux, rapidement.
En fait, je suis pas amoureux, mais première fois quand une jeune fille, je suis sale déjà, c'est plusieurs jours j'ai pas pris ma douche, j'ai pas rasé ma barbe, mais les sentiments de Roman, cette fille, elle m'a proposé café, elle m'a proposé cigarette, elle m'a laissé entrer dans son toilette privée. Pour moi, c'est donner beaucoup d'énergie, ça. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Je comprends que les gens, elles sont, savez, l'histoire de l'Afghanistan, de migration, de choses. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et moi, je n'ai jamais oublié ça. Si je vibre, je n'ai jamais oublié ça.
Cette fille, vous avez juste oublié de lui demander comment elle s'appelle?
Moi, je ne parle pas très bien pour anglais, déjà. Et je suis timide. Je n'ai pas demandé pour le nom. Et s'il y a eu... J'espère que je passe un jour, je vais voir.
Vous aimeriez bien la retrouver, hein?
Ouais, j'aime trop que il m'a proposé première fois, j'ai bu café, ça c'est un moment, c'est un bon moment pour moi.
J'ai vu tout à l'heure quand j'ai raconté ce passage-là, là je vous ai vu, vous aviez l'œil un peu humide. Bon, on sent que ça vous a touché, quoi.
Ouais.
C'est le premier contact très positif.
Exactement.
Avec l'Europe, même si la Serbie n'est pas en Union européenne, elle est quand même en Europe. Merci beaucoup de m'avoir confié, sa fille, cette histoire, votre histoire. J'espère que je l'ai bien racontée. Je rappelle le titre de ce livre qu'on trouve aux ateliers Henri Dougier, Exil ordinaire d'un jeune Afghan, signé Safi Mohamed et Giovanni Privitera.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.